aux petits soins de nos clients dans plus de 14 pays d'Afrique, Suno Assurance vous fait profiter d'une assurance santé toute option, où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Raphaël Constant.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous parlons des vaccins, cet acte médical de santé publique qui permet de combattre et d'éliminer des maladies infectieuses potentiellement mortelles. D'après l'Organisation mondiale de la santé, on estime que 2 à 3 millions de décès par an sont ainsi évités. La vaccination n'est donc pas un acte de santé individuel, mais répond bien à une démarche collective. Mais paradoxalement, l'OMS vient de classer l'hésitation vaccinale parmi les 10 menaces mondiales pour la santé en 2019. En effet, ces dernières années, l'OMS a pu constater dans le monde de multiples flambées de rougeole ou de diphtérie. Alors derrière ce constat, une explication, le recul de la couverture vaccinale dû notamment à la circulation de fake news et au discours des anti-vaccins. Alors pourquoi est-il toujours indispensable de se vacciner? Pourquoi certains vaccins sont-ils obligatoires et d'autres non? Comment rendre la vaccination accessible même aux populations les plus isolées et vulnérables? Quels sont les effets du mouvement anti-vaccination sur la santé publique? Tour d'horizon avec nos invités. Semaine mondiale de la vaccination, pour en parler avec nous aujourd'hui en studio, Dr Jeanne Gaune, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin infectiologue, responsable du centre d'information, de dépistage et de diagnostic du VIH et des IST à l'hôpital Bichat et maître de conférence des universités en maladies infectieuses. Également avec nous en studio, Françoise Salvadori, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en pharmacie, immunologie et virologie, maître de conférence en immunologie à l'université de Bourgogne et co-auteur du livre Antivax, la résistance aux vaccins du 18e siècle à nos jours, paru aux éditions Vendémiaire. Nous retrouverons tout à l'heure en direct de République démocratique du Congo le docteur Elisabeth Mukamba Musenga, médecin de santé publique et actuellement directrice adjointe du programme élargi de vaccination en RDC. Si vous avez des questions à nous poser ou un témoignage à apporter, notre page Facebook est ouverte et nous attendons tous vos appels au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Tout d'abord, pour commencer cette émission, ce premier constat. Début mars, l'UNICEF a alerté sur la recrudescence préoccupante de la rougeole dans le monde. 110 000 cas ont été enregistrés au cours des trois premiers mois de l'année 2019, ce qui représente une hausse de 300% des cas d'après l'OMS. Docteur Gaune, quelle est l'étendue de cette épidémie et comment l'expliquer ?
Alors, le problème de la rougeole, c'est il y a deux problèmes. C'est que c'est potentiellement une maladie grave. Donc, elle peut avoir des séquelles très graves pour les personnes qui la contractent, notamment des séquelles au niveau du cerveau. Et deuxièmement, c'est une des maladies les plus contagieuses qu'on connaisse. Pour vous donner un exemple, quand quelqu'un a la grippe, on estime qu'en l'absence de vaccination, il va pouvoir transmettre la grippe à 3 à 5 personnes autour de lui. Et quand une personne a la rougeole, elle va pouvoir la transmettre à 16 personnes autour d'elle. Et donc chacune de ces 16 personnes pourra la transmettre à 16 personnes. Donc c'est vraiment une maladie qui fait une espèce d'effet boule de neige, de cascade de transmission. Et c'est ce qui explique que dès qu'on baisse un peu le niveau de vigilance, le niveau de vaccination, très vite on bascule dans l'épidémie. Et des chiffres aussi impressionnants que ceux que vous décrivez avec cette augmentation de 300%.
Et il y a quand même 170 pays concernés. D'ailleurs, les principaux foyers sont le Brésil, Madagascar, les Philippines ou l'Ukraine.
Exactement. Et nous aussi en France, on a aussi une recrudescence de la rougeole depuis le milieu des années 2000.
Françoise Salvadori, comment se fait-il que beaucoup de personnes pensent encore que la rougeole est une maladie bénigne ?
Eh bien, en fait, non seulement ils pensent parfois qu'elle est bénigne, mais parfois, malheureusement, ils pensent qu'elle est bénéfique. Et ça, c'est assez grave. C'est quelque chose qu'on a entendu, qui est peut-être une vieille croyance. La rougeole ferait grandir, etc. Donc, c'est comme un rite d'initiation, parfois, dans certaines populations. Et c'est très difficile de convaincre les gens que cette maladie est grave. D'une part, elle est peu présente. D'autre part, quand elle est présente, elle est souvent bénigne. Et les gens oublient complètement, parce que les vaccins ont fait disparaître, quand même, dans nos pays, globalement, cette maladie. Quand la maladie n'est pas présente, les gens ne voient plus l'intérêt de se faire vacciner.
Docteur Gaune, donc vous le disiez, la rougeole est 15 fois plus contagieuse que la grippe, par exemple. Est-ce que la vaccination est le seul moyen de s'en protéger ?
Oui, c'est le seul moyen de s'en protéger aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre moyen. La vaccination est très efficace, sous réserve qu'elle soit faite correctement, c'est-à-dire avec deux doses de vaccin, pour assurer une bonne protection contre la rougeole.
Alors justement, pourquoi certains vaccins sont-ils obligatoires et d'autres non ?
Eh ben, c'est essentiellement lié au risque de contagion et au fait d'avoir des maladies potentiellement graves. Donc si une maladie est potentiellement grave et qu'on a un vaccin efficace, on va d'autant plus le rendre obligatoire pour essayer d'éliminer cette maladie. Alors que pour des maladies qui peuvent être bénignes dans la plupart des cas et qui ne conduisent pas à des séquelles graves, comme par exemple la varicelle, les enfants peuvent faire la varicelle, c'est pas très grave. Et le vaccin existe, mais on ne le rend pas obligatoire parce qu'il n'y a pas de séquelles potentiellement graves de la varicelle. Alors que c'est pas du tout le cas pour la rougeole ou pour d'autres maladies comme celles qui sont actuellement dans le calendrier vaccinal et qui sont devenues obligatoires depuis un peu plus depuis la rentrée.
On parle donc effectivement couverture vaccinale. Aujourd'hui en France et depuis le 1er janvier 2018, 11 vaccins sont désormais obligatoires pour les enfants entre 2 mois et 2 ans. Ils viennent compléter les 3 qu'il était déjà. Alors, docteur Ghosn, pourquoi est-ce qu'il faut obliger les parents à vacciner leurs enfants et pourquoi on les vaccine aussi jeunes ?
Alors, il faut obliger les parents à vacciner les enfants parce que il faut atteindre un taux de couverture vaccinale dans la population souvent supérieur à 95% des individus pour éviter qu'une épidémie puisse éclater. C'est le seul moyen de casser une épidémie. Ce moyen, c'est d'avoir plus de 95% des personnes vaccinées. Jusqu'à janvier 2018, avant que la vaccination soit obligatoire pour ces 11 maladies, on avait des taux en France qui étaient relativement corrects, mais on dépassait rarement 80% pour les maladies pour lesquelles la vaccination n'était pas obligatoire. Et ça ne pouvait pas nous protéger contre les explosions d'épidémies comme ce qu'on a vu avec la rougeole. Donc le seul moyen, c'est de le rendre obligatoire.
Le chiffre est de 95% conseillé pour avoir une couverture vaccinale maximale.
Exactement.
Vous parliez du calendrier vaccinal. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Donc le calendrier vaccinal, c'est le moment auquel on va faire certains vaccins pour les enfants à partir de 2 mois. C'est important de savoir pourquoi on le fait à partir de 2 mois. C'est pas parce qu'avant 2 mois, l'enfant n'est pas prêt à avoir un vaccin ou parce que c'est dangereux ou que ça le fatigue. C'est parce que jusqu'à l'âge de 2 mois, l'enfant est protégé par les anticorps qu'il a reçus, non pas par l'allaitement, mais essentiellement ceux qui sont passés à travers les échanges de sang entre la mère et l'enfant pendant la grossesse. Et la durée de vie de ces anticorps est d'environ 2 mois. Ça explique qu'au bout de 2 mois, l'enfant n'est plus protégé et c'est là où on commence à le vacciner. Il faut aussi comprendre que, par exemple, les enfants prématurés, on les vaccine à 2 mois de vie. On ne corrige pas l'âge parce que à 2 mois, de toute façon, une fois qu'ils sont nés, les anticorps vont rester 2 mois et après ils vont disparaître. Donc il faut les vacciner à 2 mois. Et à partir de là, on a des moments précis pour faire les vaccins et les rappels pour éviter que la maladie puisse survenir.
Et est-ce que tout le monde peut être vacciné de la même façon ?
Non, tout le monde ne peut pas être vacciné de la même façon. Il y a certains états de santé qui font que certaines personnes ne peuvent pas être vaccinées. Des personnes qui ont des problèmes du système immunitaire qui ne répondent pas au vaccin. Des personnes adultes, par exemple, qui ont des chimiothérapies parce qu'elles ont un cancer. Ou des personnes qui vont être greffées, par exemple, ne pourront plus être vaccinées avec certains vaccins. D'où l'importance d'être bien vacciné dans l'enfance et d'avoir cette protection de façon durable quand on peut faire les vaccins le plus tôt possible.
On peut penser aussi aux femmes enceintes.
Exactement. Toutes ne peuvent pas être vaccinées.
RFI. On l'a dit, les effets des vaccins ne sont pas directement visibles. Il y a moins de malades autour de nous. François Salvadori, je me tourne vers vous. Est-ce que pour autant, les maladies ont disparu ? Est-ce qu'il est toujours indispensable de se vacciner ?
Alors, une seule maladie a disparu grâce à la vaccination, c'est la variole. La variole a été déclarée éradiquée, c'est-à-dire disparue de la surface du globe en 1979. Une autre maladie est tout près d'être éradiquée, mais on dit ça depuis plusieurs décennies. On s'en approche, c'est la poliomyélite. Apparemment, en 2018, il y a eu 33 cas, d'après les chiffres que j'ai vus officiels. Donc on est tout près de l'éradication. Ces 33 cas sont dans une région du monde qui est le Pakistan, qui est aussi une zone avec une résistance à la vaccination particulière.
Si on remonte le fil de l'histoire médicale, les vaccins ont fait leur essor au 19e siècle. Mais à quand remontent les prémices de la vaccination ?
Alors les prémices de la vaccination sont difficiles à dater, sans doute avant le 18e siècle. Cette vaccination vient d'une vieille observation qui était qu'on n'avait la variole qu'une seule fois dans sa vie. Donc le fait de l'avoir nous protégeait à vie d'une certaine façon, ce qui a donné l'idée dès le 17e peut-être, ou 18e siècle en tout cas, début du 18e, XVIIIe, à certaines, enfin en Chine, au Moyen-Orient, dans plusieurs pays du monde, d'inoculer la variole, c'est-à-dire on prenait un petit peu de pu d'une personne qui avait la variole pour l'inoculer à quelqu'un d'autre, à un moment où il était relativement en forme, et on lui donnait une petite variole qui était censée le protéger toute sa vie. Alors ça marchait, dans le sens où, selon des chiffres qui ne seraient plus acceptables actuellement, on protégeait, disons qu'on pouvait, on mourait une fois sur six de la variole et à peu près une fois sur 100 de l'inoculation de la variole. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, on pourrait la situer à Monsieur Jenner, qui est un médecin anglais du 19e siècle, qui en 1796, très précisément, a inoculé un jeune berger avec non plus du pus de varioleux, mais du pus de vaccine, c'est-à-dire la maladie qui pourrait être assimilée à la variole de la vache. Et donc cette maladie étant beaucoup moins dangereuse pour l'homme, on a gardé le même principe de lui injecter une maladie, mais une maladie beaucoup moins grave. Et là, on avait une protection avec beaucoup moins d'effets secondaires.
Donc la variole est à l'origine de tout, on peut dire.
Oui.
Et après, quelles ont été les grandes étapes historiques de la vaccination ?
Donc la grande étape historique suivante, bien sûr, c'est Pasteur, que tout le monde connaît, qui n'a pas inventé l'immunologie, ni les vaccins d'une certaine façon, mais qui a montré qu'on pouvait l'étendre à d'autres maladies, ce qui était un énorme progrès. Et donc lui, bien sûr, en 1885, il est connu pour avoir découvert et mis en application pour la première fois le vaccin contre la rage. Donc c'est la deuxième maladie protégé, enfin évité par la vaccination.
Qu'il a testé sur un enfant de 9 ans.
Qu'il a testé directement sur un enfant qui s'est présenté un jour avec un risque très très élevé de développer la rage et qui lui a sauvé la vie, on pense, de cette façon-là. Et ensuite, il y a eu les débuts de l'immunologie, les débuts de ce qu'on appelle la sérothérapie aussi, donc on pouvait transmettre des anticorps directement faits chez quelqu'un d'autre pour protéger contre une maladie. Et ça, ça a été la diphtérie, le vaccin antitétanique également. Et puis après, il y a une grande date qu'on peut citer, qui est 1954, le vaccin contre la polio, qui donc aboutit à la situation qu'on vient de décrire, c'est-à-dire une quasi-éradication de cette maladie 50 ans après.
Et dans toute cette histoire, il faut quand même rappeler, François Salvadori, qu'il y a eu quand même beaucoup d'accidents et de victimes directes.
De la vaccination ? Alors, beaucoup moins que par les maladies quand même, il faut relativiser, mais il y a eu quelques accidents qu'il ne faut pas nier. On peut citer l'accident de Lübeck, qui est en 1931, qui est dû en fait à une contamination du lot de vaccins contre le BCG. Donc en fait, c'est difficile de jeter la pierre à ces scientifiques, parce que c'était les débuts, et puis c'est pas si simple de fabriquer un vaccin. Techniquement, c'est très compliqué d'assurer la sécurité des lots. Actuellement, c'est les médicaments qui sont les plus vérifiés, qui demandent des centaines d'étapes de contrôle avant d'arriver à un vaccin sûr. Et évidemment, il y a eu des accidents. Il y a eu un incident aussi au début de la vaccination contre la polio, qui a marqué les esprits, mais cette vaccination était tellement un progrès que finalement, l'accident a été assez vite oublié aux États-Unis. L'accident dit Cutter.
Et ensuite, il faut expliquer qu'il y a eu plusieurs sortes de vaccins, plusieurs familles. Les vaccins inactivés, notamment pour la coqueluche ou l'hépatite B, le tétanos, et les vaccins vivants, la rougeole, la rubéole, la fièvre jaune. De quoi s'agit-il ?
Donc, quelquefois, on utilise directement le virus légèrement atténué, enfin complètement atténué, mais il reste quand même un virus qui n'est incapable de donner la maladie, mais qui reste virus. Et là, ce sont des vaccins donc vivants, rougeole, oreillon, rubéole, c'est le plus connu. Le BCG est considéré aussi, donc le vaccin contre la tuberculose est un vaccin vivant. Ce sont des vaccins qui sont très efficaces, qui ont une très longue efficacité, qui ne demandent pas beaucoup de rappels ou pas de rappels du tout, et en revanche qui ont aussi l'avantage, entre guillemets, pour certains qui ont peur des adjuvants, de ne pas contenir d'adjuvants, puisqu'ils sont eux-mêmes leurs propres adjuvants, on peut dire ça comme ça. Ces vaccins-là, malheureusement, n'existent pas pour toutes les maladies. On peut opposer à ça, par exemple, le vaccin antitétanique, qui lui est seulement fabriqué à partir de la toxine, puisque c'est la toxine qui est dangereuse. On immunise les gens contre ce poison qui est présent dans le bacille. C'est un vaccin qui existe depuis longtemps, qui est basé sur une toxine inactivée.
Tout de suite, on va partir aux États-Unis où la rougeole fait un inquiétant retour en force.
RFI.
Depuis le début de l'année, les États-Unis ont enregistré 695 cas de rougeole. C'est la pire épidémie depuis son élimination officielle en 2000. Alors pour expliquer cette résurgence de la maladie, la défiance anti-vaccin. En ligne de Washington, on vous retrouve Anne Corpet, correspondante de RFI. Anne, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Anne, vous avez récemment réalisé un reportage consacré à ce retour de la rougeole et rencontré à cette occasion des militants anti-vax, comme on dit. Alors qui sont les anti-vax américains?
Bien, j'étais dans l'état de Washington, vous savez, au nord-ouest du pays. Et là-bas, beaucoup des militants anti-vaccins sont les parents d'enfants malades, handicapés ou allergiques, dont les pathologies ont été détectées à l'âge d'un an, un an et demi, à l'âge justement où de nombreux vaccins sont administrés aux États-Unis. Tous ont été troublés par cette concomitance temporelle et ils ont fait le lien de cause à effet, même si rien ne permet de l'établir. Alors la plupart sont des gens éduqués, hein. Ils ont accès à Internet, ils sont capables de lire l'imposante littérature répandue par le mouvement anti-vax sur les réseaux sociaux. Certains se présentent même comme des scientifiques, mais en réalité, je n'ai rencontré aucune personne diplômée dans un secteur lié à la médecine ou aux sciences exactes, adepte de ces théories. Et ce qui est frappant, c'est la méfiance de ces personnes vis-à-vis des autorités établies, qu'elles soient gouvernementales ou médicales. Mais toutes sont de bonne foi, elles sont vraiment convaincues de la nocivité des vaccins et de l'existence d'une sorte de grand complot de l'industrie pharmaceutique. Alors on trouve aussi des communautés isolées, hein. On s'est rendu compte par exemple en 2017 pendant une épidémie de rougeole que le taux de vaccination des Somaliens de la région de Minneapolis avait dramatiquement chuté. La rumeur d'un lien entre le vaccin et l'autisme s'était propagée dans cette communauté. À la suite d'une campagne d'information ciblée, ce taux est heureusement remonté. Et en ce moment, eh bien, c'est la communauté juive orthodoxe de l'État de New York qui est particulièrement touchée. Beaucoup ne sont pas vaccinés car ils croient notamment que le produit contient des extraits de porc que leur religion interdit. Une croyance évidemment infondée. Les rabbins eux-mêmes demandent aux fidèles de se faire vacciner.
Et alors Anne, quelle est la réaction des autorités face à la fois au discours anti-vax et à cette conséquence en termes épidémiologiques avec cette flambée de rougeole?
Bon, ça dépend un peu des endroits, hein, parce que vous savez, les États-Unis sont très décentralisés. Chaque État, comté, district a des prérogatives différentes. À New York, par exemple, les autorités locales ont pris des mesures radicales face à l'épidémie. Le maire a décrété l'état d'urgence dans sa ville et a imposé la vaccination dans 4 quartiers de Brooklyn particulièrement touchés, sous peine d'une amende de $1000. Plus au nord, dans le même état, un comté a interdit aux personnes non vaccinées de fréquenter les lieux publics, établissements scolaires, transports ou autres. Et puis, je vous le disais, il y a donc des modifications dans la loi. Les exemptions de vaccination pour raisons personnelles sont actuellement autorisées dans 17 États et 10 d'entre eux sont en train de supprimer cette mesure qui permettait facilement aux parents d'inscrire leurs enfants à l'école même s'ils n'étaient pas vaccinés. Enfin, il y a bien sûr des campagnes d'information. Mais ajouter aux mesures prises pour lutter contre la maladie, cela coûte cher hein, aux autorités. Dans l'État de Washington, près $1,5 million de dollars a déjà été dépensé depuis le début de l'année pour tenter de juguler l'épidémie de rougeole. C'est beaucoup plus, évidemment, que ce qu'aurait coûté la vaccination de l'ensemble de la population.
Une propagande a d'ailleurs largement été relayée via les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a eu des décisions de prise à ce niveau-là de la sphère Internet ?
Oui, plusieurs plateformes comme Facebook ou Pinterest ont annoncé qu'elles seraient désormais plus attentives et qu'elles banniraient de leur réseau toute désinformation sur les vaccins. Les anti-vax ont immédiatement crié à la censure. Les médecins, eux, ont exprimé leur soulagement. Ils sont effarés hein, de ce qu'ils peuvent lire sur les réseaux sociaux. Mais ces mesures ne suffiront sans doute pas à mettre un terme aux rumeurs les plus folles qui circulent aussi via le bouche-à-oreille, dans des conférences organisées par le mouvement anti-vax et sur des journaux imprimés qui sont distribués tout simplement dans la rue.
Merci beaucoup Anne Corpet d'avoir été en ligne avec nous de Washington. Et pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter votre grand reportage, nous mettons le lien sur le site de Priorité Santé. On vous retrouve Françoise Salvadori, docteur Jade Ghosn. Françoise Salvadori, comment est né le discours anti-vaccin?
Alors ce discours existe depuis le début. D'après l'étude que nous avons faite sur 3 siècles, on s'est rendu compte qu'au début, juste quand on faisait seulement de l'avariolisation, cette pratique venait d'Orient, de Chine, et elle a été importée en Europe par Lady Montagu, qui était l'épouse d'un ambassadeur anglais à Constantinople. Et de fait que cette technique venait de très loin, elle a été très vite vue comme une pratique étrange et étrangère. qui évidemment était mauvaise. Ensuite, l'étape vaccination de Jenner a été montrée du doigt parce qu'elle apportait des humeurs animales chez l'homme. Et en plus, elle venait d'Angleterre et donc il y avait une certaine xénophobie et anti-anglicisme à l'époque. Ce qui est aussi très vite apparu, c'est le geste de contrainte de l'État sur les corps, et en particulier renforcé par les campagnes coloniales de vaccination, qui ont été vraiment vues comme des contraintes là de nature coloniale, souvent associées à une idée de stérilisation. Par exemple, en Afrique, la colonisation française a marqué les esprits comme peut-être ces vaccins pourraient nous stériliser, voire nous éliminer. Ce sont tout ça a laissé des traces. Ce qu'on trouve plus actuellement, ça va être des arguments de type religieux, mais qui sont toujours liés à des sectes, et non pas aux grandes églises établies et officielles d'une certaine façon. On va trouver beaucoup d'arguments de type naturaliste, c'est-à-dire que les gens pensent que la nature est bien faite, en gros, et que finalement, tout geste vaccinal est un geste artificiel qu'il faut bannir. Un discours pseudo-scientifique ou scientifique qui essaie de nous expliquer que les gens savent mieux que tout le monde qu'un adjuvant est mauvais, par exemple, alors que tout a été montré qu'il n'était pas si mauvais. Et puis des arguments très fréquents actuellement sur Big Pharma, l'enrichissement, le soupçon d'enrichissement.
Les scandales sanitaires, en fait.
Les scandales sanitaires et le fait que la contrainte de l'État, finalement, renforcerait par une sorte de collusion entre l'État et l'industrie pharmaceutique cette défiance des citoyens.
Et comment le mouvement anti-vaccination diffuse ces messages ?
Alors, il diffuse actuellement, on le sait par Internet, mais il diffusait au XVIIIe siècle dans les salons. On sait qu'il y avait des tas de pamphlets à la fois anti et pro qui se disputaient. Donc en fait, la diffusion des messages ne date pas d'aujourd'hui, mais elle a pris une ampleur absolument exceptionnelle. Et on sait très bien qu'Internet favorise ce qu'on appelle l'effet bulle, c'est-à-dire que les gens retrouvent exactement ce qu'ils cherchent sur Internet et s'enferment dans une bulle cognitive, comme on dit, c'est-à-dire de reprenant toujours les opinions qu'ils ont eux-mêmes et qui les renforcent de plus en plus. Ça, je pense que c'est très bien établi pour beaucoup de choses et parfaitement pour la vaccination, en tout cas.
Et cette défiance récurrente concerne différents vaccins, notamment l'hépatite B et le papillomavirus.
Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des défiances nationales. Alors, on a connu l'histoire de la rougeole qui est née, rougeole-autisme, ce lien totalement erroné qui a été montré par un médecin anglais du nom de Wakefield qui a malheureusement répandu cette rumeur sur la terre entière maintenant. En France, il y a eu, sans doute suite à une erreur de communication de ministères successifs en France, l'idée que ce vaccin contre l'hépatite B allait transmettre des maladies auto-immunes. Alors, ce lien a été totalement infirmé, enfin non confirmé par des dizaines d'études, mais ça reste. Et finalement, on retrouve un peu la même chose avec le vaccin contre le papillomavirus. Pour le papillomavirus, s'ajoute le fait que c'est un vaccin contre une maladie sexuellement transmissible. Donc dans certains pays, on a aussi des rumeurs des arguments de type moral pour éviter de vacciner des jeunes filles de 9-10 ans contre une maladie sexuellement transmissible. C'est assez présent aux États-Unis, c'est relayé par des ligues moralistes, d'associations familiales catholiques, enfin chrétiennes en tout cas.
Et d'après vous, Françoise Salvadori, comment contrer ce discours en termes de santé publique ?
Alors c'est très très difficile. Je vois comme piste peut-être une éducation meilleure à la santé pour tout le monde, y compris des professions de santé, y compris des infirmières, mais aussi de tous les citoyens en renforçant assez tôt non seulement l'enseignement scientifique, parce que ce ne sera pas suffisant, mais l'enseignement à devenir, enfin, éduquer les enfants à devenir très méfiants par rapport aux fake news, par rapport à ce qu'ils lisent sur Internet, reconnaître un fait scientifique d'un fait qui ne l'est pas. Ce type d'éducation peut être utile. Bon, ramener aussi la confiance des citoyens en l'État, parce que quand on est en régime d'obligation, ça ne peut fonctionner que si on a une certaine confiance qui n'est pas exactement à l'ordre du jour actuellement.
Docteur Ghosn, je me tourne vers vous. Selon les zones géographiques, les infections ne sont pas les mêmes. Il faut dire qu'aujourd'hui, dans certaines régions du monde, la préoccupation est bien davantage de faire vacciner les bébés pour leur épargner une pneumonie, par exemple, une infection qui tue encore plus d'1 million d'enfants chaque année.
Oui, c'est certain. C'est sûr que les pneumonies sont des maladies qui peuvent être très graves, d'autant que les enfants parfois sont fragiles parce qu'ils ont de l'asthme ou des problèmes respiratoires, et ces enfants sont prioritaires pour la vaccination. Dans les vaccins qu'on fait actuellement pour les nourrissons, on protège contre deux types de maladies qui donnent des pneumonies, la coqueluche et le pneumocoque. Ce sont deux bactéries qui peuvent donner des maladies graves. La coqueluche peut être très contagieuse aussi. Et donc pour ces deux maladies, les vaccins sont très efficaces et il faut absolument les faire, d'autant, comme je vous le dis, que les enfants sont en collectivité, qui sont en contact avec d'autres enfants ou alors qui sont fragilisés parce qu'ils ont de l'asthme ou d'autres maladies pulmonaires.
Et selon les estimations de l'OMS, aujourd'hui il y a encore 20 millions de nourrissons dans le monde qui ne bénéficient toujours pas de vaccins de base.
Tout à fait.
Je pense à la pneumonie. Exactement. Ou à la polio par exemple. Tout de suite, on va prendre la direction de la République démocratique du Congo.
RFI à Kinshasa, 105 FM. RFI.
On retrouve le docteur Elisabeth Mukamba Musenga. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin de santé publique et directrice adjointe du programme élargi de vaccination en République démocratique du Congo. Docteur Elisabeth Mukamba Musenga, que prévoit le calendrier vaccinal en RDC?
Alors, en RDC, dès la naissance déjà, l'enfant doit recevoir deux vaccins, le vaccin BCG qui le protège contre les polios, la tuberculose miliaire, pardon, et il reçoit le vaccin contre la poliomyélite. Et après un mois et demi, disons six semaines après, l'enfant revient pour recevoir le vaccin, le pentavalent, qui combine le vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, les infections hémophilies influenzae de type B, le vaccin contre le pneumocoque. Alors, cette dose sera rappelée 4 semaines plus tard, et 4 semaines plus tard encore, il recevra la troisième dose associée au vaccin polio pour les trois prises. Mais au quatrième rendez-vous, l'enfant recevra le VPI également. Et il reviendra au neuvième mois pour recevoir le vaccin contre la rougeole et contre la fièvre jaune. Donc, ce sont les antigènes que nous donnons ici en RDC.
Et quelle est la prise en charge de la vaccination en RDC? Est-ce que les vaccins sont gratuits et disponibles sur l'ensemble du territoire?
Exactement. Donc, le gouvernement achète ce qu'on appelle l'ensemble des vaccins traditionnels, qui comprend le BCG, le VPO, le vaccin contre la rougeole. Et pour les autres vaccins, le gouvernement paye et on a un financement de Gavi, notamment pour le cofinancement pour les vaccins nouveaux et sous-utilisés. Alors, tous ces vaccins sont administrés gratuitement dans tous les centres de santé.
Et le 19 avril dernier, se sont déroulées les journées nationales de la vaccination contre la polio et la rougeole. Est-ce que les patients sont venus facilement ou est-ce que la vaccination pose des problèmes en RDC?
Alors, l'accès à la vaccination est vraiment gratuit et ouvert à tout le monde. Déjà, en campagne, il y a deux stratégies qui sont mises en œuvre. Il y a la stratégie porte-à-porte pour les vaccins contre la polio. Ce sont plutôt les vaccinateurs qui vont dans les minages et qui vaccinent tous les enfants cibles, c'est-à-dire les enfants de 0 à 5 ans. Et pour la vaccination contre la rougeole, c'est plutôt un mouvement inverse. Les parents doivent amener les enfants au niveau des sites de vaccination. De manière globale, le vaccin est assez accepté. En tout cas, il faut le dire, il est accepté. Et actuellement, il faut dire quand même que la perception de la gravité de la rougeole existe dans la communauté, ce qui fait que dans la majorité des sites, selon les informations que nous avons reçues, il y a eu une bonne affluence au site de vaccination. Après, il existe, comme on l'a dit, quelques poches, voilà, des sectes religieuses qui existent ça et là et qui, voilà, pensent que le vaccin n'est pas bon, le vaccin c'est l'invention des blancs, voilà. Et il y a encore tout un travail. Il y a d'énormes progrès qui ont été faits parce que ces mouvements, on les a intégrés aux équipes de vaccination. Et avec une bonne communication, une bonne perception, plusieurs mouvements ont adhéré et aujourd'hui font partie des relais communautaires que nous envoyons dans la communauté pour sensibiliser, pour vacciner. Donc, il y a encore du travail à faire, mais il y a déjà suffisamment des progrès qui sont accomplis.
Et la RDC a notamment été concernée par l'épidémie de virus Ebola. Quel vaccin est utilisé et où en est la campagne de vaccination ?
Alors, au jour d'aujourd'hui, déjà, il faudrait que ce n'est pas une campagne de vaccination parce que on ne vaccine pas systématiquement tout le monde. Le vaccin qui est utilisé, c'est un vaccin recombinant qui associe une protéine du virus Ebola avec le vaccin de la stomatite vésiculaire, donc qui est administré. Mais ce vaccin n'est administré que au contact des cas, c'est-à-dire à toutes les personnes qui ont été identifiées comme étant des contacts proches du cas positif de la maladie à virus Ebola. Et tous les contacts des contacts, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont été en contact avec les contacts de ces contacts, donc les proches des personnes atteintes. Alors sur le terrain, je pense effectivement, il y a énormément d'avancées qui ont été faites. Les chiffres d'hier montrent qu'autour de plus de 107 000 personnes ont été vaccinées. Mais le travail est énorme parce que la propagation de la maladie est encore assez active. Il y a beaucoup de mouvements déjà à Beni et à Boutembo. C'est une zone avec des poches d'insécurité qui rend des fois la riposte assez difficile, l'accès dans ces zones assez difficile. Mais le travail est en train d'évoluer et avec les dernières mesures que le gouvernement, le président de la République a prises, donc il y a des avancées qui sont faites et on accède, on pense pouvoir arriver à mener à plaidoyer pour accéder à ces zones d'insécurité.
Merci beaucoup Elisabeth, docteur Elisabeth Mukamba-Musenga d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique et directrice adjointe du programme élargi de vaccination en République démocratique du Congo.
RFI à Kinshasa, 105 FM. RFI.
On poursuit cet échange avec vous, Françoise Salvadori et docteur Jade Ghosn. On va donner la parole aux auditeurs juste après cette question. Docteur Ghosn, quelle est la réglementation au niveau mondial en matière de politique vaccinale ? Est-ce qu'il y a des obligations ? Est-ce qu'il existe des dérogations ?
Alors, dans la plupart des pays, il y a des vaccins obligatoires qui sont plus ou moins importants selon les pays. Par exemple, en Europe, il y a 14 pays qui ont des vaccins obligatoires, 15 pays qui ont des vaccins recommandés, dont certains obligatoires. Et autour de nous, l'Italie, par exemple, et la Grèce ont une politique de vaccination qui est obligatoire, un peu sur le même schéma que nous, on a depuis janvier 2018. Il y a rarement des dérogations. Ensuite, il n'y a pas vraiment des sanctions pour les personnes qui ne vaccinent pas, sauf dans certains pays, par exemple aux États-Unis, il y a des sanctions pour les vaccins qui sont obligatoires, qui ne sont pas réalisés par les parents.
Tout de suite, on va donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
RFI.
Et on va retrouver Youssouf qui nous appelle de Maroua au Cameroun. Bonjour Youssouf. Bonjour Youssouf.
Oui, c'est pas Youssouf.
Bonjour, alors ça doit être Rafiat, c'est ça ?
Oui.
On rappellera Youssouf juste après. Bonjour Rafiat, vous nous appelez de Cotonou, au Bénin. On vous écoute.
Oui. Ok, ma question est de savoir quels sont les types de vaccination qu'il faut faire aux enfants ? Parce que les miens ont fait juste 5, 3 jours après l'accouchement, un mois après, 2, 3... cinquième mois et neuvième mois. Maintenant, l'autre question est que, est-ce qu'il y a une vaccination pour 2 ans? Parce que dernièrement, j'ai ma voisine avec laquelle j'ai accouché ensemble et je l'avais appelée pour faire mes vœux d'anniversaire à ça, puis elle me faisait comprendre qu'elle est allée faire la vaccination de 2 ans. Je ne sais pas de quelle vaccination elle parle. Pourrais-je avoir des informations claires par rapport à ce type de vaccination? et quelle est son importance? Également, y a-t-il possibilité de rattraper et comment? Parce que j'ai aussi un enfant de 8 ans à qui je n'ai pas fait ce genre de vaccination. Je voudrais savoir s'il y a possibilité de le rattraper à eux deux.
Merci beaucoup, Rafiat, pour ces questions. Docteur Ghosn, finalement, la question de notre auditrice concerne les rappels, cette deuxième injection et le rattrapage vaccinal.
Alors, très clairement, cette injection qui a dû être faite à l'âge de 2 ans pour la fille de votre voisine, ça devait être, je pense, la deuxième injection du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. C'est en général ce vaccin qu'on fait entre 18 mois et 24 mois, donc ça tombe à ce moment-là. Les vaccins qu'on fait avant, à partir de 2 mois jusqu'à l'âge de 9 mois, 11 mois, c'est plutôt diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, l'hépatite B, le pneumocoque, l'hémophilus, en général c'est les vaccins qu'on peut faire. Et rougeole, oreillon, rubéole, on les fait vers 1 an et avec un rappel entre 18 mois et 2 ans. Donc probablement c'est ce vaccin-là que vous n'avez pas fait à votre fille et peut-être pas à votre fils de 8 ans. Il n'y a aucun problème pour rattraper, hein. On peut toujours rattraper des vaccins qui n'ont pas été faits. On les rattrape selon le même schéma en général. Parfois, quand l'âge augmente, on peut être amené à faire une injection supplémentaire pour certains vaccins, mais en tout cas pas pour celui-là. Mais ce qui est très important, c'est de revoir avec le médecin votre carnet de vaccination pour qu'il puisse faire le point et éventuellement refaire les injections qui n'ont pas été faites.
Merci beaucoup, Rafiat. On vous souhaite une bonne journée à Cotonou. Et tout de suite, on va retrouver Youssouf, donc qui nous appelle de Maroua, au Cameroun. Bonjour, Youssouf.
Bonjour, Raphaël.
On vous écoute.
Ok, en fait, j'ai deux préoccupations. La première concerne un article que j'avais eu à lire dans les réseaux sociaux, où il était question d'un vaccin contre le diabète qui aurait été trouvé. Bon, personnellement, j'étais un peu sceptique. Parce que sachant que le diabète est une maladie métabolique et non bactérienne ou virale comme les autres. Et donc, ma question est de savoir, est-ce qu'il existe des vaccins contre des maladies métaboliques? Et si oui, quel serait le mode d'action?
Merci pour votre question, Youssouf. Docteur Ghosn, je me tourne vers vous.
Alors, en fait, vous avez raison d'être un peu interrogatif parce que c'est pas vraiment un vaccin, mais... Alors pour le diabète, pour l'instant, il n'y a pas de vaccin ni de traitement de ce type-là. Il y a des recherches en cours, mais il y a ce qu'on appelle la thérapie génique qui consiste pour des maladies génétiques comme le diabète de type 1, par exemple, à aller modifier le gène dans les cellules pour qu'il puisse fabriquer l'insuline. Et pour arriver dans les cellules, on va utiliser certains vecteurs vaccinaux, mais en fait, c'est pas vraiment un vaccin, c'est juste quelque chose qui va transporter le nouveau gène dans les cellules qui n'ont pas ce gène qui fonctionne. Mais en fait, on appelle ça plutôt la thérapie génique plutôt que de la vaccination.
Merci Youssouf pour votre question. On vous souhaite une bonne journée à Maroua. Merci à toutes et à tous d'ailleurs pour vos appels et vos messages. Tout de suite, on reprend notre échange avec vous. Docteur Ghosn, quelles précautions est-ce qu'il faut prendre pour qu'un vaccin soit efficace?
Alors, il y a plusieurs précautions qu'il faut, il n'y a pas grand chose comme précaution qu'il faut prendre. La seule chose qu'il faut s'assurer de, il y a certains vaccins qu'on peut pas faire à des intervalles très rapprochés. Donc, pour certains vaccins, par exemple, une fois qu'on fait un vaccin vivant, on peut en faire plusieurs en même temps. Mais une fois qu'on en a fait un, il faut attendre au moins 4 à 6 semaines avant d'en faire un autre. C'est une des seules précautions à prendre. Ensuite, en dehors de ça, on a longtemps dit que si un enfant a le nez qui coule ou s'il a un peu de fièvre, il fallait pas le vacciner parce qu'il allait pas répondre au vaccin. Et on voit bien que c'est pas du tout un problème et qu'en fait, il faut essayer de respecter le calendrier vaccinal. Et en dehors de des délais qu'il faut vraiment essayer de respecter, il n'y a pas de précaution particulière à prendre.
Il y a certains vaccins qui demandent quand même de respecter la chaîne du froid.
Alors, j'allais y venir justement. Mais du coup, effectivement, le plus important, c'est de respecter cette chaîne du froid. Et par exemple, quand vous achetez le vaccin avant d'aller chez le médecin pour le faire, il faut le laisser au réfrigérateur et pas dans la porte du réfrigérateur. Hein, parce que la porte, vous l'ouvrez souvent, vous la refermez. Et quand vous l'ouvrez, il y a des baisses de température. Il faut vraiment laisser le vaccin dans les rayons du réfrigérateur et pas dans la porte. Et très important, vous le sortez juste avant d'aller chez le médecin et on fait le vaccin. Il faut vraiment pas que ça traîne à température ambiante parce que du coup, le vaccin n'est plus actif.
Alors, c'est pas toujours évident de pouvoir conserver un vaccin au frais selon les régions du monde où on se trouve. Qu'est-ce qui peut arriver quand les vaccins sont mal conservés?
En fait, c'est pas du tout dangereux. Le vaccin n'est pas dangereux. La seule, c'est qu'il est plus efficace et en fait, il ne va pas vous protéger. Donc, vous allez penser que vous êtes protégé alors qu'en fait, vous n'êtes pas protégé.
Et on en parlait tout à l'heure du rattrapage vaccinal avec un de nos auditeurs. Est-ce que à tous les âges, on peut rattraper un vaccin ?
À tous les âges, on peut rattraper un vaccin. Alors parfois, quand vraiment le calendrier n'a pas été respecté, on peut reprendre la vaccination au départ comme s'il n'y en avait pas eu. Mais il n'y a aucune limite d'âge pour rattraper un vaccin quel qu'il soit.
Il arrive que certains vaccins soient en rupture de stock. À quoi est-ce que c'est dû ?
C'est dû à des problèmes de fabrication, parfois, à des problèmes de chaîne de froid qui n'a pas pu être respectée. Et c'est vrai qu'on est souvent confronté à ce problème. Heureusement, on a parfois plusieurs laboratoires qui fabriquent un vaccin contre une même maladie. Donc, on peut, sans grand problème, utiliser tel type de vaccin ou tel type de vaccin si c'est pour la même maladie. Et en règle générale, on arrive à s'en sortir en respectant le calendrier vaccinal.
Françoise Salvadori, c'est vrai que c'est une fabrication longue, un processus industriel. Combien de temps est-ce que ça prend ?
Alors selon les vaccins, ça peut durer jusqu'à 2 ans actuellement, parce que les vaccins justement nécessitent d'abord de fabriquer les souches virales, donc les entretenir sur des cellules, il faut avoir des cellules sûres, vérifier la sécurité de ces lignées cellulaires, produire le virus, purifier le virus, le modifier suffisamment pour qu'il puisse être mis dans un vaccin, l'associer éventuellement à un adjuvant, et pour certains vaccins, il y a plusieurs centaines de tests qui doivent être faits à certaines étapes. Et ce qui peut expliquer qu'on a des pénuries, finalement la pénurie c'est le prix à payer, ce qui est regrettable évidemment, mais le prix à payer pour la sécurité.
Il existe plusieurs formes de vaccins, différentes présentations en fait, l'injection par seringue, la prise par voie orale et la scarification, cette petite cicatrice qu'on fait souvent sur l'épaule. Qu'est-ce que ça change d'une forme à l'autre ?
Alors en fait, la prise par voie orale est très rare. Elle est seulement limitée au vaccin qu'on appelle le vaccin polio oral, qui est très très peu utilisé actuellement dans le monde, parce que c'est un vaccin vivant. Ce serait technique de rentrer dans les détails, mais dans beaucoup de pays du monde préfèrent maintenant le vaccin inactivé, ce qu'on appelle le polio injectable, celui dont on a parlé jusqu'à présent. Et la scarification, c'est le BCG. Mais c'est tout. Finalement, on est revenu à des injections par seringue la plupart du temps. Il y a beaucoup de projets en cours, de recherches pour mettre au point des vaccins muqueux qu'on appliquerait dans le nez, dans la bouche ou sur les muqueuses génitales éventuellement, qui pourraient avoir d'énormes avantages. D'une part, une meilleure acceptation de la population qui craint quand même la piqûre. Les mamans craignent beaucoup la piqûre pour leur bébé. C'est aussi un motif de, non pas de refus, mais de crainte. Et aussi, on aurait sans doute une meilleure immunité pour certaines maladies qui sont transmises par une arrivée muqueuse.
Docteur Ghosn, par exemple, à quel vaccin il faut penser quand on voyage ?
Alors, tout dépend où vous voyagez, mais en général, il faut penser aux vaccins contre la typhoïde, aux vaccins contre l'hépatite A, aux vaccins contre la fièvre jaune, et ensuite plus spécifique. Alors, c'est l'occasion, de toute façon, les voyages, de faire le rattrapage vaccinal. C'est vraiment l'occasion, quand on consulte avant un voyage, d'avoir son carnet de santé et de vérifier que ces vaccins sont à jour, tous les autres, indépendamment du voyage. Donc, c'est vraiment l'occasion de faire le point sur ces vaccins. Et ensuite, en fonction des pays, on a soit des vaccins, donc que je vous ai cités, on peut avoir des vaccins plus spécifiques pour certains pays. Quand on est dans des zones, quand on voyage par exemple, qu'on n'est pas en ville, qu'on sait qu'on va être longtemps dans des zones un peu éloignées, avec des jeunes enfants, qu'on risque d'être en contact avec, peut-être qu'il y a des chiens que les enfants vont caresser, qui risquent de se faire mordre et qu'on peut pas aller tout de suite trouver un centre antirabique, il faut faire d'emblée au départ le vaccin contre la rage. Et c'est important de discuter avec un médecin et de bien savoir où on va aller et d'avoir un peu planifié son itinéraire pour pouvoir décider si oui ou non on le fait. Et il y a aussi d'autres choses que les vaccins quand on voyage. C'est aussi la protection contre le paludisme, la protection contre les moustiques, la dengue par exemple, ou le virus Zika qui est transmis par les moustiques. Donc toutes ces protections-là sont aussi importantes à réaliser, aussi importantes que les vaccins à faire pour les voyages.
Il faut rappeler qu'il n'existe pas encore de vaccin contre le paludisme.
Non, il n'en existe pas. La recherche est très importante sur le sujet, mais il n'existe pas à ce jour de vaccin contre le paludisme.
Alors justement, question un peu plus générale, où en est la recherche ? On pense au paludisme, mais aussi au sida. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
Alors pour le paludisme, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Pas de vaccin prometteur à ce jour. Contre le virus du sida, il y a aussi, la recherche est très importante sur le vaccin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les vaccins dont on dispose aujourd'hui sont des vaccins pour des maladies contre lesquelles on sait se défendre. Et en fait, on n'a pas le temps de se défendre et la maladie laisse des séquelles. Et le fait d'avoir le vaccin, on est prêt si jamais on attrape la maladie. le virus VIH, on ne sait pas se défendre contre ce virus. Donc c'est d'autant plus difficile d'éduquer son système de défense à se défendre, puisque au départ, on ne sait pas le faire. Donc ça va être très compliqué qu'on trouve un vaccin, mais on n'a pas baissé les bras. La recherche est très importante sur le sujet. Il y a eu un vaccin un peu prometteur qui a été fait par une équipe en Thaïlande il y a quelques années, qui avait une protection d'à peu près 30%, ce qui est quand même très très faible, mais c'est quand même mieux. Jusqu'à maintenant, on avait zéro avec les autres vaccins. Donc la recherche continue et vraiment, il y a beaucoup de mobilisation sur la recherche vaccinale contre le VIH.
Et comment est-ce qu'on peut savoir qu'un vaccin est apte à être inoculé? Je pense notamment à Ebola, où il y a eu beaucoup de recherches avant de trouver un vaccin.
Et ben c'est tout le problème de tous les essais précliniques qu'on va faire, sur des espèces animales d'abord. Une fois qu'on est sûr d'avoir la sécurité, on va tester sur des personnes qui sont volontaires et qui sont saines. On va voir si le vaccin est suffisamment inoffensif et efficace dans un deuxième temps, et ensuite on pourra passer à la vaccination médicale.
Alors on parle d'accès à la vaccination et à l'information. Par quoi est-ce que ça passe? Par une meilleure sensibilisation ou par plus de moyens financiers?
Eh ben, ça passe par tout ça, et ça passe aussi par une meilleure communication. Par exemple, vous voyez, je pense que si on arrête de dire que le vaccin contre le papillomavirus, c'est contre une maladie sexuellement transmissible, mais que c'est un vaccin qui protège contre un cancer, notamment, on voit qu'en Australie, plus de 80% des jeunes filles et des jeunes garçons, puisque la vaccination, elle est pour tous les jeunes en Australie, plus de 80% sont vaccinés, et on a vu une diminution des cancers de la gorge, qui sont liés aussi au papillomavirus. Donc, il faut aussi qu'on change de mode de communication, il faut aussi qu'on mette les moyens, et qu'on explique aux gens, qu'on montre vraiment que le vaccin est efficace, et toutes les règles de sécurité ont été validées, et que si on arrive à proposer ce vaccin de façon obligatoire, c'est parce qu'il est sécure, parce qu'il est sûr et parce qu'il est efficace, et que ça va protéger et l'individu et la collectivité.
Et qu'il a été testé et prouvé.
Qu'il a été testé, que tout a été vraiment... Toutes les chaînes, toutes les étapes de la chaîne de sécurité ont été testées et validées.
Très rapidement, en deux mots, pour conclure, quel message de prévention est-ce que vous voudriez faire passer aux auditeurs?
Eh ben, vaccinez vos enfants, vaccinez-vous, protégez-vous, protégez les autres.
François Salvadori.
Et quand vous lisez sur Internet quelque chose, surtout si ça paraît un peu sensationnel, essayez au plus, le mieux possible, de croiser les sources, de regarder sur plusieurs sites, de sortir un peu de vos amis Facebook et d'aller voir ailleurs. C'est difficile de lire un article scientifique, mais essayez au moins de trouver des articles dits de vulgarisation qui vous expliquent les choses de façon claire. Regardez si ça vient d'une agence officielle. Il y a aussi de faux sites, par exemple Infovax, ressemble à un site d'information, mais n'en est pas un.
François Salvadori, Jade Ghosn, merci à vous deux pour cet échange. Docteur Ghosn, je rappelle que vous êtes médecin infectiologue responsable du centre d'information, de dépistage et de diagnostic du VIH et des IST à l'hôpital Bichat, et maître de conférence des universités en maladies infectieuses. François Salvadori, vous êtes docteur en pharmacie, immunologie et virologie, maître de conférence en immunologie à l'université de Bourgogne et co-auteur du livre Antivax, la résistance au vaccin du 18e siècle à nos jours, paru aux éditions Vendémiaire. Priorité santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, à C'est tous à maquer, Ophélie Lassène et aujourd'hui Nicolas Benita à la réalisation. Demain, vous retrouverez Chantal Laureau pour parler gestion des émotions chez les enfants et les adolescents. On vous donne rendez-vous à 9h10, temps universel, 11h10 à Paris. Et si vous voulez témoigner ou poser une question, le numéro de téléphone de l'émission 33 1 84 22 75 75. À demain et bonne journée sur RFI.
Aux petits soins de nos clients dans plus de 14 pays d'Afrique, Suno Assurance vous fait profiter d'une assurance santé toute option, où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.